Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Chronique juridique avec Nada Boumefta. Bonjour Nada.
Bonjour messieurs.
Alors c'est une espèce de poursuite contre poursuite là, Gilbert Rozon qui à son tour poursuit Patricia Tulane, lui qui l'est poursuivi. Explique-nous ce qu'il y en est là.
Oui, alors pour décortiquer tout ça, d'abord on va y aller une étape à la fois. Rappelons-nous que à l'automne, et en fait depuis la vague de dénonciation, on a eu le groupe des courageuses qui a été représenté par madame et qui ont tenté de faire une demande, un recours collectif devant la Cour supérieure qui a été refusé parce qu'elle n'avait pas les mêmes motifs, les mêmes bases à présenter devant les tribunaux et donc devait chacune d'entre elles prendre des recours individuellement. Et c'est ce qu'on a vu, il y en a eu à peu près 4 cet été, on serait au 5e. Et ce qu'on comprend ici, c'est que Gilbert Rozon décide de contester en envoyant une demande reconventionnelle, c'est-à-dire on poursuit dans la poursuite qui existe déjà. Et l'idée, c'est de faire un seul et même procès où les deux parties pourront présenter leurs preuves. Rappelons qu'on est au civil ici, pas au criminel. Donc, le fardeau de la preuve et la prépondérance de preuve par la balance. C'est vraiment l'image parfaite qu'on peut donner au public. La force de la preuve de l'un va peser en fonction de la force de la preuve de l'autre et le tribunal pourra trancher, ce qui n'est pas le cas en criminel. Et ce que je questionne ici, messieurs, c'est le résultat qu'on cherche à obtenir. Qu'est-ce que ces victimes-là veulent avoir devant les tribunaux? Est-ce que c'est vraiment une question pécuniaire ou c'est vraiment une question aussi d'être reconnu, d'être entendu? Alors voyons si c'est le bon véhicule procédural et le bon tribunal d'aller au civil pour ces plaignantes-là. C'est quand même une grosse vague qu'on a vue depuis. Et également, notre visage finalement de société a également beaucoup changé en raison de l'actualité et des nombreux féminicides qu'on a eus là, malheureusement cette année.
Mais là donc... Une fois au civil, ben là, Gilbert Rozon prend aussi la voie des tribunaux civils, lui, pour une poursuite.
Exact, en contestant. Et ce qu'on comprend ici, c'est qu'évidemment, au civil, ce n'est pas comme au criminel où c'est un avocat de l'État qui est contre un individu. C'est chacune des parties représentée par l'avocat de son choix. Donc, on a vraiment une question peut-être de force aussi devant le tribunal, d'accès à des ressources en fonction de l'argent que cette personne-là a. On comprend que Gilbert Rozon ne manque pas de moyens et ça m'amène à soulever une question qui aurait peut-être pu être amenée par notre gouvernement le provincial, entre autres par le projet de loi 92, c'est peut-être d'accompagner et d'aider, même peut-être donner un accès à un service gratuit pour des présumées victimes dans le cadre de poursuites judiciaires civiles. Peut-être que ça aiderait et justement éviterait un débalancement compte tenu des avantages pécuniaires qu'une des deux parties pourrait avoir.
Nada, tu reviens sur la partie support aux victimes du projet de loi 92, donc le tribunal de justice spécialisé.
Oui, et c'est ce que notre ministère a déposé officiellement cet automne. Donc, un projet de loi dans lequel on suggère plusieurs modifications suite à une audition qui a été faite où on a entendu, entre autres, les courageuses venir témoigner et donner leur version des faits sur ce manque d'écoute du système juridique, surtout en criminel, le manque de préparation, le manque d'encadrement. Alors, on répond par ce projet de loi en exigeant, entre autres, et j'espère qu'il y aura des ressources aussi qui viendront avec ça, que les victimes soient mieux encadrées. Mais ce que je trouve assez particulier, messieurs, et c'est là où on verra si ce sera un coup d'épée dans l'eau ou il y aura vraiment un changement, c'est que tout le système juridique criminel demeure une matière fédérale et non provinciale. Donc, on comprend que cette loi-là ne vient pas modifier le code criminel en imposant des sentences minimales, par exemple, ou en changeant la façon dont on procède devant les tribunaux criminels. Le fardeau demeure le même, hors de tout doute raisonnable. Les droits que l'accusé, qui sont protégés par notre charte demeurent également. Donc, il n'y a pas un débalancement quant à la force ou à la présentation d'une preuve au niveau criminel, mais on comprend qu'il y a tout un travail d'encadrement à faire. Mais ce que notre ministre souligne, Jeanine Barrette, c'est en mentionnant, entre autres, qu'on pourra faire des vidéoconférences ou donner accès à des panneaux, par exemple, pour que les victimes, lorsqu'elles s'éloignent, ne voient pas l'accusé. Mais ça, messieurs, je tiens à mentionner que ça fait des années qu'on le fait. En pratique, c'est souvent demandé par la poursuite. en défense, on n'en fait pas un débat puisqu'on comprend la situation d'une personne qui va témoigner devant un tribunal, n'a pas été vraiment préparée, il y a un stress aussi, puis de revoir quelqu'un qui est présumé avoir eu ou commis des actes comme ça sur nous, ça peut être très difficile. Donc ça, ça existe déjà. Alors qu'est-ce que la loi va réellement venir changer? J'espère que ça va aider au niveau de la préparation, mais je rappelle aux gens que le rôle du DPCP n'est pas de représenter les intérêts d'un individu, mais plutôt d'amener devant la justice, traiter des dossiers de gens qui ont enfreint le code criminel, et évidemment dans le respect des droits et libertés de ces individus-là.
Finalement, le maître d'un pitbull là, qui avait défiguré une fillette qui quitte pas la prison, mais est-ce qu'il veut vraiment sortir?
Toute une histoire. D'abord, je tiens à rappeler aux gens que c'est des événements qui se sont passés en 2015, si je ne me trompe pas. On parle d'un propriétaire de chien qui était vraisemblablement et clairement par la preuve démontré comme étant un chien dangereux. C'est un individu qui n'avait pas été représenté par un avocat à l'époque, niait complètement le tout, a été déclaré coupable. Et c'est suite à ne pas avoir attaché son chien, ne pas l'avoir muselé. Et on comprend qu'il y a eu des victimes, malheureusement, des enfants qui ont été mordus dans cette affaire-là. Et il a écopé d'une sentence de 7 ans de détention qui est quand même dans une échelle de gravité élevée pour une négligence quand même qui était assez claire et patente d'un individu aussi qui en a contre les autorités. Donc même au moment où l'huissier est venu lui porter sa date de comparution, par exemple, ou quand les policiers sont venus pour le mettre en état d'arrestation, on voit qu'il y a eu des démarches qui ont été faites pour entrer en contact avec lui, ben il a répliqué par la force. Alors clairement, ne tient pas compte de l'autorité qui est autour de lui, même de la force physique est appliquée par des policiers. Donc clairement, un individu qui ne semble pas se soucier des règles semble penser être au-dessus des lois et en plus, qui était propriétaire malheureusement là, d'un animal qui n'était pas très sain et qui était très dangereux. Alors on comprend que la fusion de ces deux aimants-là, ben on crée malheureusement des accidents comme celui qu'on a connu. Mais là, désolé pour le mot accident, c'est quand même une négligence. Ça a été reconnu comme étant une négligence criminelle devant les tribunaux. Alors, on verra. Il a été, il demeurera donc détenu jusqu'à ce qu'il démontre à tout le moins un processus de changement sur ces étapes-là. Et on verra ce que la commission dira lorsqu'il pourra refaire sa demande.
Nada, merci beaucoup et bonne fin de semaine.
Merci. Bon week-end à lundi. Au revoir.